France Inter, le 18-20.
Comment soigner notre alimentation, manger mieux en privilégiant les produits naturels, les produits de saison et les circuits courts pour notre approvisionnement? Vos questions, vos réflexions sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux hashtag Telson ou par téléphone 01 45 24 7000.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Tout de suite, la première question avec Alix qui nous appelle de Valence. Bonjour.
Bonjour. Alors, j'ai appris quelque chose hier qui m'a choquée. Donc, l'Europe est censée défendre ses habitants, citoyens de cette Europe et bien sûr consommateurs. Comment se fait-il que cette année, elle a entériné une loi appelée secret d'affaires qui ne permettra pas aux consommateurs d'exiger des industries agroalimentaires de produire les recherches et les tests qui ont permis à leurs produits d'avoir l'autorisation de mise sur le marché? Tout cela sous prétexte de protection du secret de la recherche. Tests qu'ils ont effectués souvent eux-mêmes. Voilà, qu'en pensent vos invités?
Alors, nos invités, Thierry Marx, chef 2 étoiles au sur-mesure à Paris et au Camélia également, une brasserie également à Lyon et Paris, des écoles de cuisine, pionnier de la cuisine moléculaire. Avec nous également Flora Mikula, chef de l'auberge Flora, boulevard Lenoir à Paris, consultante gastronomique, adepte de la bistronomie. Bonne cuisine à prix abordable. Et Arnaud Daguin, conseiller stratégique en alimentation, chroniqueur gastronomique, notamment sur France Inter, chez François-Régis Gaudry, le dimanche matin. Bonjour à vous, madame,
bonjour.
Messieurs.
Bonsoir à tous.
Cette question sur les lobbies de l'agroalimentaire, c'est peut-être pour vous, Thierry Marx?
Pour moi, je crois que c'est pour nous tous. Hein. C'est l'opacité de ces lobbies, il faut le dénoncer, il faut clarifier tout ça et effectivement empêcher que Bruxelles entérine en permanence des choses qui sont irrecevables pour le consommateur.
Arnaud Daguin.
Quand on parle du sujet de ce soir qui est soigner son alimentation, je pense que le premier vrai sujet, c'est soigner le système alimentaire. Donc, comment soigner son alimentation? De façon collective, la jeune femme qui nous a appelé là a parfaitement raison de poser ce genre de questions. Mais la réponse à comment soigner son alimentation, elle est collective. C'est-à-dire, c'est vraiment nous tous qui devons prendre ce sujet. On ne peut pas laisser ça ni à une instance, ni à un club, ni à une association. Il faut vraiment que tout le monde réalise quel est le fond du problème de notre alimentation d'aujourd'hui.
Et l'Europe est sous la tutelle des lobbies agroalimentaires ou cède trop facilement aux lobbies?
Le marché de l'alimentaire est sous la tutelle de ses consommateurs, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, on vote avec son caddie et sa carte bleue. Donc, évidemment, c'est plus compliqué d'aller chercher les valeurs dans les produits quand c'est pas marqué dessus. L'effort que nous avons tous à faire maintenant, c'est d'exiger très simplement et ensemble que les valeurs internes et externes des produits alimentaires soient apparentes et puissent être sur la table au moment où on veut les comparer à un prix qu'on nous demande.
Flora Mikula. Votre combat, c'est de privilégier notamment, c'est ce que vous faites dans votre restaurant, les produits locaux.
Locaux et de producteurs de toute la France, hein, parce que j'ai des producteurs qui viennent de partout. Mais je dirais à cette dame, je ne sais pas où elle vit, c'est moi j'ai entendu carte
à Valence.
À Valence, je suis sûre qu'à Valence, il y a des marchés avec des vrais producteurs qui viennent au moins 2 fois par semaine. Et si elle a le temps, parce que c'est souvent le week-end, de s'y rendre le plus souvent possible. Et là, elle a vraiment les producteurs en face d'elle et elle sait d'où viennent les produits.
C'est pas toujours facile, hein, en ville et en hiver.
En ville, en hiver, c'est pas... Bon, Valence, je pense que c'est quand même une ville encore.
Même si on a envie de tomates en hiver.
Alors, il faut pas avoir envie de tomates en hiver.
Ou alors des tomates qu'on a transformées l'été. Qu'il y en avait beaucoup.
Mais
parce
y a tellement...
ça, c'est très agréable quand même, hein, d'avoir un peu de tomates pour les pâtes en hiver quand on en avait beaucoup au mois d'août et qu'on les a mis dans des bocaux, c'est pas plus
voilà,
mal.
Alors en bocaux, mais... Il y a tellement de beaux produits, on a un pays qui regorge de produits. Tous les mois, il y a un nouveau légume qui sort de la terre, donc il y a de quoi faire.
Jean-Yves, qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir Jean-Yves.
Oui, bonsoir, merci, et bonsoir à tous. Et juste pour compléter ce qu'a dit notre chef, c'est que l'alimentation, juste un détail qui a son importance, quand vous produisez du maïs pour nourrir des vaches, 1 hectare de maïs pour nourrir des vaches, vous êtes obligé de rajouter un complément alimentaire parce que l'herbe apporte tout ce qu'il faut à la vache, mais pas le maïs, la surface d'1 hectare de soja. Donc à chaque fois que vous avez 1 hectare de maïs produit en France, Vous êtes obligé d'importer la production d'un hectare de soja d'Amérique du Sud, donc de participer à la déforestation, aux problèmes de pollution, de problèmes sociaux et aussi des problèmes sanitaires, parce que l'élevage industriel consomme énormément, 80% des antibiotiques dans le monde, ce sont les élevages industriels. Mais seulement l'agroalimentaire, ils ont besoin des élevages industriels pour recycler les déchets de l'agroalimentaire. Voilà, qu'est-ce que feraient les agrocarburants si on ne recyclait pas les résidus des agrocarburants dans les élevages de porcs, ben, au Venezuela, tout autour, et puis en Amérique du Sud. Et chez nous aussi, les élevages participent à ce recyclage permanent des déchets que si, vous voyez, on avait les farines animales, mais sinon, si on n'a pas l'élevage industriel, l'agroalimentaire ne peut pas fonctionner, il ne peut pas éliminer ses déchets. Voilà. Bon, je pourrais partir sur les antibiotiques, mais bon...
Alors, on va en rester là pour l'instant, d'autant que l'utilisation des antibiotiques a énormément baissé ces dernières années.
C'est vrai, mais je crois que cet auditeur connaît bien le problème, et je reviens sur ce que disait Arnaud Daguin, c'est vraiment collectif. Et j'ai toujours cette phrase à l'esprit de Coluche qui disait « il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas ». Donc à un moment donné, il faut faire des acteurs militants, des consommateurs militants, et décidons informé, de ce que nous ne voulons pas consommer.
Et former, bien sûr.
Il faut qu'on ait ces informations, il faut savoir ce que l'on consomme, et encore une fois, tout a été évoqué là. Il faut faire du consommateur militant, et puis qu'on soit capable de vérifier, de lutter contre l'opacité du monde de l'agroalimentaire.
Alors le problème de l'information du consommateur, c'est un vaste problème. Comment on fait, parce que le nombre de labels, de logos, comment on fait maison, restaurateur, artisan
Alors, vous avez la qu'il faut écouter.
Eh bien, on y travaille.
Oui,
voilà.
Et ça fait longtemps.
Le sujet est complexe, mais on peut quand même, et je pense qu'on est en train d'y arriver, on peut quand même le prendre sous les trois axes qui sont les axes importants quand on parle des valeurs de nos produits alimentaires. Il y a évidemment celui qui concerne l'environnement et le climat, hein. Quel est le rapport de ce produit? Est-ce qu'il nous envoie en enfer ou est-ce qu'il nous aide à sortir par le haut de notre crise climatique? Ça, c'est la première famille de valeurs. La deuxième, c'est celle de la santé et de la nutrition. C'est qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce produit qui nous concerne physiquement et comment il est performant, puisqu'on parle de performance aujourd'hui au niveau de la nutrition dont nous avons vraiment besoin. Et là, la quantité joue un rôle aussi. Et puis la troisième famille, ben, c'est celle de l'économie, la vraie, pas la finance d'en haut du bilan, la vraie économie, c'est-à-dire le prix qu'on paye au producteur pour un produit, est-ce qu'il lui permet de se projeter, et donc de projeter l'avenir d'un territoire et de sa culture. C majuscule, C minuscule. C'est avec un système comme celui-là qu'on arrivera à déterminer vraiment les choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut être Bac+12 pour se retrouver dans les labels, les étiquettes, les allégations, les origines contrôlées. Et quand vous demandez à un acheteur public, par exemple, quelqu'un dont c'est le métier d'acheter les produits que vont manger vos enfants, vos malades ou vos vieux, puisque c'est comme ça que marche la restauration collective, quand vous lui demandez de faire du mieux 10 ans, il n'a aucun outil pour calculer du mieux 10 ans.
C'est pour ça que pour le grand public, il n'y a qu'un seul label qui vaille, c'est le bio, finalement. Or, le bio, on en parlait tout à l'heure avec Thierry Marx, ce n'est pas forcément l'avenir.
Non, et puis quand vous projetez le bio, est-ce que le bio dans 10 ans ou dans 15 ans sera complètement rattrapé et macroté finalement par l'agro qui est capable d'acheter des parcelles et puis un jour qui sera fini, qui finira par être capable de faire le bon cahier des charges du bio. Donc ça n'aura pas de sens.
Vous voulez dire qu'il pourrait changer le cahier des charges? Mais
bien sûr, dès lors que vous...
Oui, ils vont se l'adapter, puisque ce sera eux les premiers les parcelles, ce
d'ailleurs,
sera les plus gros
la grande distribution est déjà très acteur dans le bio, l'agro aussi, ça y est, c'est parti. Donc le bio pour le consommateur les consommateurs que nous sommes, dans 10 ou 15 ans, ne sera plus une valeur sûre.
Il y a même des vignerons qui étaient bio il y a 20 ans ou 25 ans, qui reviennent à du raisonné, qui est quand même la valeur...
Du raisonné, mais pas du conventionnel.
Voilà. Si, parce que le raisonné, ben, c'est prendre ses responsabilités, tout simplement. Comme quand vous achetez. C'est bien beau de dire aux consommateurs, manger 5 fruits et légumes par jour, mais si on ne leur dit pas quoi. Et puis, on sait très bien que manger 5 fruits et légumes par jour, ça coûte plus cher que d'ouvrir un paquet de pâtes et un pot de ketchup.
Mais s'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour en 1936 pour être en forme, aujourd'hui il faudrait manger 5 ou 6 cajots de fruits et légumes par jour. Parce que l'INRA nous dit, l'INRA nous dit qu'il y a aujourd'hui 5 à 6 fois moins de micronutriments au kilo dans les végétaux qui sont produits en moyenne en France. C'est ça qu'il faut qu'on sache. La performance, les champions, aujourd'hui, ce sont les vrais paysans. C'est ceux des riches terres, c'est-à-dire ceux qui ont compris que dans un territoire, c'était le fil du vivant et la fertilité qui primait. Alors évidemment, le cahier des charges bio, en son temps, était nécessaire, puisqu'il a mis un coup d'arrêt, au moins culturel, à l'usage intensif de la chimie du pétrole. Et ces pionniers que j'ai connus étaient dans le bon sens. Le problème, c'est que maintenant, ce cahier des charges bio ne suffit plus à indiquer les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut inventer quelque chose qui rassemble la lecture des performances.
J'ai vu que pour vous, l'agriculteur était plus que jamais un métier d'avenir.
Absolument.
Bah, si on fait bien...
Mais l'agriculture est un métier d'avenir.
C'est dans tous les métiers.
D'ailleurs, il faudra la projeter à 2050. C'est... 2050, le problème problématique, c'est l'eau. Est-ce qu'on va continuer à détruire des tomates quand on aura produit tout? Non, on peut récupérer l'eau de ces tomates et savoir aussi travailler sur le déchet. C'est ça aussi, l'agriculteur de demain.
Alors Julien, c'est Julien qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour, bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Vous êtes agriculteur, je crois?
Voilà, je suis éleveur en multi-élevage dans les Bouches-du-Rhône, en bio, et on distribue toute notre production en circuit court, mais vraiment court, directement au producteur, en AMAP, au niveau des paniers marseillais, et sur des marchés de producteurs, mais uniquement de producteurs, on est que l'on contrôle au niveau d'une association de l'ADR dans les Bouches-du-Rhône. Mais voilà, donc par rapport à vos discussions que j'entendais tout à l'heure, c'est vraiment défendre la production et la position du producteur, donc en bio de surcroît, bien sûr, ça c'est parce que ça me tient à cœur, mais vraiment un bio éthique et pas un bio qui se rapproche juste à une étiquette qu'on va fixer sur un produit, mais et vraiment éduquer les consommateurs, mais qui deviennent des conso-acteurs pour vraiment défendre leurs idées et vraiment arriver à appuyer le sens de la production.
Alors qu'est-ce que vous appelez...
Comme vous disiez en amont tout à l'heure, c'est que si on arrête d'acheter la merde qui est produite en serre chauffée toute l'année, et même en hiver, peut-être qu'un jour ils arrêteront d'en produire.
Alors qu'est-ce que vous appelez le bio-éthique, Julien?
Ben c'est vraiment... parce que c'est la démarche en bio, c'est bien gentil pour se faire certifier. Il y a des producteurs n'importe où qui peuvent arriver à se faire certifier. Mais vraiment un engagement en connaissant le producteur, savoir comment il travaille, et vraiment se rapprocher plutôt du cahier des charges bio français qui était encore en vigueur il n'y a pas longtemps, et se détacher du cahier des charges bio européen qui est beaucoup plus laxiste.
Alors à écouter Julien, on comprend que se lancer dans le bio, c'est du militantisme finalement. Et on mesure le rôle que peut jouer le consommateur, Flora Micula.
Mais je pense que, comme il dit, lui, quand il a commencé, il a vraiment suivi le cahier des charges français. Et maintenant que c'est ouvert à l'Europe et qu'on en voit partout, je pense que pour l'agroalimentaire, le supermarché, quand il écrit bio, c'est juste un gain d'argent parce qu'il va pouvoir ajouter 50 centimes ou 1 euro sur chaque produit. Et
la motivation principale de ceux qui passent au bio, c'est... Le revenu.
Oui. Dans l'agroalimentaire, pour moi, ça serait le revenu.
Il faut quand même noter que c'est sans doute la seule branche de l'alimentaire qui a une progression à deux chiffres aujourd'hui. Donc, on peut comprendre que ça fasse réfléchir.
20 fermes par jour qui passent au bio aujourd'hui en France.
On peut comprendre ça. Mais c'est pas mauvais. C'est pour moi, à la limite, le bio, c'est presque... Enfin, le bio au cahier des charges dont on parlait tout à l'heure, c'est presque, à la limite, un prérequis. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est ça l'histoire, c'est pas de renier ce qui a été fait, c'est d'avancer. Nous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a un système alimentaire qui est mort, c'est un arbre mort. Alors évidemment, il fait encore un petit peu. Hein.
C'est-à-dire, le système alimentaire est mort.
Ben, vous avez une branche qui vient de tomber, là, vous connaissez? Oui, William Sorens, ça vous dit quelque chose? Bon, voilà, la branche est tombée, pouf, et maintenant, c'est le Fonds de développement économique et social qui prend 70 millions à nous, hein, pour recoller la branche. Évidemment, on ne va pas les laisser tomber, les 3500 employés directs et les autres. Mais c'est vraiment une branche tombée de l'arbre mort de notre système alimentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, les performances de ce système alimentaire sont négatives globalement. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'alimentation? On parle de soigner son alimentation. Ce qui nous intéresse, c'est les performances écologiques, les performances nutritionnelles et les performances économiques. Encore une fois, vraiment économiques, pas financières, économiques. Et bien, dans ces trois secteurs du jeu, la grande partie de notre système alimentaire est mauvais. Mais quand je dis mauvais, mais vraiment, quoi. Il ne fait pas de performance. Ce sont des performances négatives. Regardez l'état dans lequel sont nos producteurs et nos éleveurs aujourd'hui. Regardez l'OMS qui nous dit que 50% des cancers sont reliés à l'alimentation. Et regardez le réchauffement climatique, comment il est impacté par l'élevage massif et par une agriculture qui émet au lieu de séquestrer. Alors que le végétal est notre seule porte de sortie par le haut du changement climatique. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui.
Un changement total de paradigme.
Absolument.
À organiser.
Absolument.
Oui, et puis arrêter, comme vient de le dire cet auditeur, avec cette théorie du low cost, c'est-à-dire que du produit pas cher tiré vers le bas. C'est-à-dire que quand on vous dit ça sur du pain, par exemple, une baguette de pain à 80 centimes d'euros, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous ne protégez pas une filière agricole, vous ne protégez pas une transmission d'un savoir-faire. Une baguette à 1,10€ ou à 1,20€, ce qui est à peu près acceptable pour un grand nombre d'entre nous, ça a du sens. Donc il faut redonner du sens et arrêter avec cette théorie du low cost, de dire le tout pas cher, parce que ça finit par empoisonner tout le monde.
Alors avec nous, Michel qui nous appelle du Var. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Voilà, je voudrais faire une remarque par rapport au circuit court. On entend quand même pas mal de discours pour vanter le circuit court et pour notamment apprendre à nos jeunes à manger correctement. Et moi, il se trouve que je travaille dans le contrôle des mines de la microbiologie alimentaire. Et on se rend compte que, et notamment dans la restauration collective, on se rend compte que les normes sont tellement drastiques, voire à mon avis un peu débiles, que finalement les gestionnaires des cantines, qui aimeraient faire du circuit court, par exemple, je vois notamment pour les produits fermiers laitiers, les fromages au lait cru, et bien en fait ils sont vraiment frileux et réticents. Je vais vous donner un exemple. Si vous servez un fromage au lait cru, la norme dans le paquet hygiène, vous avez droit à 10 000 staphylocoques aureus par gramme. Au-delà, il est mauvais. En deçà, il est acceptable, il est satisfaisant. Vous servez un fromage au lait traité, la norme, c'est 10 staphylocoques au gramme. Au bout du compte, finalement, l'élève, il mange dans les deux cas, il va manger le fromage. Donc je vois pas pourquoi il y en a un à 10 000, il lui ferait pas de mal, et l'autre à 10, il ferait de mal. Donc, il lui ferait mal. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les gestionnaires, quand des fois certains s'essayent à faire rentrer des fromages, par exemple, pour les crus, manque de peau, paf, il y a 20 staff par gramme, tac, recalé, ça fait une levée de bouclier, et c'est le désastre. Donc en fait, voilà. Moi, il me semble que les normes du paquet hygiène, parce que en gros c'est ça, les tolérances du paquet hygiène devraient peut-être être un peu revues et être un peu plus intelligente.
Le problème des normes. Arnaud Daguin, vous intervenez souvent auprès des collectivités territoriales.
Oui, alors, cette histoire de normes, je vous rassure, hein, cher auditeur, elle n'est pas négative pour tout le monde. Hein, c'est un business très lucratif, le marché de l'hygiène alimentaire et des normes HACCP. C'est là aussi une belle économie. Ouais. Que dire? On est en train de s'apercevoir, ben, on parle de staphylocoques, là, et on parle on parle de bactéries, on parle de champignons de moisissure. Bon. Nous sommes composés de plus de bactéries que de cellules. Vous le savez tous, hein. On a plus en nous de bactéries que de cellules. Nous habitons chez les bactéries. Elles étaient là avant nous. Ce sont nos ancêtres. On vit avec elles. On vit pas contre elles. Tous les gros pets sanitaires qu'on a eu ces dernières années de salmonelle, de listeria, venaient d'usines aux normes ISO machin stérilisées deux fois par jour. Pourquoi? Parce que quand vous n'obtenez pas un équilibre d'une flore, eh bien, vous faites le lit de la bombe atomique. N'importe quel germe pathogène un peu virulent qui arrive sur un terrain aussi limpide et nettoyé de tout antagoniste, eh bien, va se régaler. C'est la même chose en agriculture. Si vous voulez pas de ravageurs, il faut un équilibre de la faune auxiliaire. Si vous n'avez pas d'équilibre de la faune auxiliaire, vous avez un ravageur qui va arriver et vous allez lui faire la guerre.
Voilà. Et trop d'antibiotiques tuent les antibiotiques. C'est pareil pour l'élevage.
Le vivant, c'est la vie, c'est pas la mort.
C'est l'équilibre.
Mais c'est vrai que pour les villages, enfin les villes avec les cantines, souvent c'est décidé aussi par la mairie, c'est des fonds et ça coûte peut-être plus cher et plus de plus de services à payer, qui vont contrôler les entrées. Et ce qu'il dit est vrai. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire bon, mieux, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a trop de règles.
Et on revient à chaque fois sur le coût matière première. Alors, chaque fois que j'ai assisté à une discussion sur les cuisines centrales, on venait sur le coût matière. Oui, on ne peut pas augmenter le coût matière première. Donc finalement, on faisait les réunions et en passant par les poubelles et en voyant tous les déchets qui n'avaient pas été consommés par les enfants à l'école. J'ai dit, voilà, votre coût matière, il est là. C'est pas bon, personne n'en mange. On arrête le fromage parce que risque de bactéries. Finalement, on va sur des préparations fromagères qui n'ont pas de sens nutritionnel et finalement, on nourrit mal les gens. Donc ce coût de l'alimentation est un faux débat, comme cette norme HACCP qui est une véritable rente pour certains, comme tu l'as dit.
Et pourtant, les cantines, c'est un enjeu fondamental. C'est là que tout commence.
C'est absolument l'enjeu. Et pour deux familles de raisons, là aussi. La première, c'est parce que c'est nos gamins qui doivent être éduqués au vrai goût des vraies choses dès qu'ils sont petits et que pour beaucoup d'entre eux dans ce pays, ben le repas de la cantine, c'est le seul repas sérieux. Hein, voilà, donc on peut s'en occuper là. Et puis c'est aussi un enjeu énorme au niveau des masses employées et c'est même, je dis, l'outil idéal pour faire basculer une agriculture dans le bon sens.
Dans les grandes villes, il y a de moins en moins de cantinières, il y a de moins en moins de services qui font la cuisine sur place. On commande des plateaux repas à de l'industrie, et voilà, parce que ça coûte moins cher, il y a moins de main d'œuvre, ça va plus vite, c'est plus contrôlé, et c'est dommage.
Il faut pas non plus jeter l'anathème sur l'industrie en tant que telle, parce que
les plateaux repas peuvent être très bien.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut chaque fois demander quoi. C'est le fameux coq à deux culs de Denis Mélier dans ses restaurants gigots, que j'aime beaucoup. C'est quoi le coq à deux culs? C'est OQQ. C'est comment, où, qui, quoi. Ah, bon. Dès qu'un client se pose cette question, comment, où, qui, quoi, il commence à avoir des éléments de réponse sur ce qu'il est en train de manger ou d'acheter. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais c'est quand même par là que ça passe. Et y compris pour les cantines.
Avec nous, Patrice, qui nous appelle de Lorraine. Bonsoir, Patrice.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Avant de poser ma question, je voudrais rebondir un petit peu sur la problématique que vous évoquez, en fait, qui traite à la fois de l'environnement et de la santé. Je suis souvent des émissions sur la télévision ou par la radio. Qu'est-ce qu'on y apprend finalement? Bon, on apprend par exemple, si on prend les vins par exemple, il y a une véritable mafia du Bordelais qui met des bâtons dans les roues dans les producteurs de vins bio. Ça, c'est pas très gentil. Hein. On apprend aussi qu'un certain Xavier Boulin est patron de la firme d'Avril. Et en même temps, patron de la FNSEA, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des progrès significatifs à grande échelle sur une agriculture à développement durable, ça c'est un petit peu aussi gênant. Vous avez parlé de circuit court, moi j'ai un voisin, simplement, je suis dans la Meuse, un tout petit voisin qui fait une toute petite exploitation, il recherche depuis des années 2 hectares, pas plus, et bien la SFR ne l'aide pas, donc ça pose un problème aussi. Et puis une petite remarque aussi par rapport à ce qui est souvent dit sur les radios, la télévision. On parle souvent, les commentateurs se gausent de trouver des produits de qualité sur les marchés qui paraissent comme une garantie de qualité incontournable. Je crois que c'est faux parce qu'on a des fruits bien calibrés, par exemple luisants, bourrés de pesticides, et à la fois trop beaux pour être honnête. Voilà, je pense que c'est des remarques qu'il fallait quand même dire.
Ah, tous les marchés ne sont pas des marchés bio, hein.
Oui, bien sûr.
Ni même des marchés de producteurs, malheureusement.
Il faut chercher.
Ma question touchait quelque chose de particulier, c'est que je voudrais savoir s'il existe des produits sains, naturels, de substitution, par exemple au foie gras ou autre chapon, afin d'éviter la souffrance animale avant abattage, parce que je trouve ça inadmissible. Quoi.
Ah, le problème du foie gras.
On y
vient, d'autant.
Et sans pincette.
Allez-y, Arnaud.
Le problème, c'est pas le foie gras, le problème, c'est quel foie gras. Ça, c'est une chose, et c'est vraiment la question de base à se poser. Ensuite, quand on parle de bien-traitance ou de maltraitance animale, je pense qu'il faut être un peu éthologue pour pouvoir en parler, et surtout pas faire d'anthropomorphisme. Aujourd'hui, quand j'entends parler du foie gras en mâle, et c'est souvent, et à juste titre, souvent, on me parle toujours du gavage. La maltraitance pour un canard, je sais pas si vous avez déjà vu des canards vivre en liberté, moi oui, j'en connais beaucoup, je peux vous dire qu'ils se gavent bien tout seuls, il n'y a pas de problème, quand ils sont sur une mare, ils bouffent des écrevisses vivantes, des limaces énormes, ils se gavent vraiment eux-mêmes, ils remplissent leur jabot, ils vont digérer ça, après c'est leur mode de vie. Le gavage en soi, le fait d'introduire ce tube dans le jabot d'un animal, pour nous, être humains, ça nous paraît être un viol terrible. C'est pas ça, la maltraitance du foie gras d'aujourd'hui. La maltraitance des canards, c'est le confinement, c'est le non-accès à l'eau, et c'est ce qu'on leur fait manger. C'est ça, la maltraitance, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, combattre. Le foie gras en soi, moi j'ai un souvenir très précis de mon arrière-grand-tante à Saint-Jean-Pouge qui appelait ses oies une par une pour les gaver une par une, et elle n'avait pas besoin de leur courir après, je peux vous dire. Elle venait une par une tranquillement, puis après elle retournait calmement. Ça durait 20 jours, c'était le jour du, enfin c'était la durée du gavage à l'époque, c'était comme ça. Et effectivement, ce n'est pas une maladie qu'on leur inocule, pas du tout. C'est juste le fait de profiter de leur aptitude phénoménale à stocker du gras en vue des migrations à venir qu'ils avaient dès le départ et que l'homme a augmenté. Le fait que ça soit devenu une industrie débectante, maltraitante, polluante et imbécile pour la plupart, c'est pas la faute du foie gras, alors la faute de cette activité, c'est la faute des hommes.
Arnaud Daguin, vous ne signerez pas la pétition qui demande l'interdiction de la production de foie gras en France, pétition lancée par un collectif d'artistes et de journalistes, dont quelques-uns d'ailleurs de cette entente.
Ils ont essayé aux États-Unis, ils ont gagné il y a 10 ans et ils ont reperdu l'année dernière.
Grâce à ma soeur.
Oui, c'est vrai, grâce à Ariane.
La côte ouest, et ça a relancé la consommation de foie gras, parce que les gens...
Le truc, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bon foie gras qu'il faut jeter le foie gras. De la même façon que c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonne viande qu'il faut jeter toute saumon, la viande. Et le saumon, pareil. Voilà. Il faut savoir de quoi on parle. Et après, l'histoire végane, pas végane, spéciste, antispéciste, ce sont des postures qui sont des postures métaphysiques. Ça se discute. On peut avoir une disputatio, on peut avoir entre nous la deuxième controverse de Valladolid, à savoir est-ce que les animaux sont nos égaux, est-ce que nous avons des droits et des devoirs envers eux. Ça, je suis alors tout à fait pour qu'on en parle, sans oublier que nous-mêmes humains sommes des animaux et que nous avons été des proies pendant longtemps, et nous le sommes toujours, des hommes aujourd'hui, plus que des animaux, que nous sommes des prédateurs depuis le début et que nous le sommes toujours à l'échelle industrielle.
La différence, c'est que les animaux mangent par nécessité et nous par plaisir éventuellement.
Oui,
et encore heureux qu'on mange encore par plaisir.
Et encore heureux. Antoine, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous.
Nous vous écoutons.
Bonsoir. Je voulais juste faire deux observations et un commentaire. D'abord, manifester toute mon admiration pour Thierry Marx qui est avec vous ce soir.
Merci.
Et d'une manière générale, la qualité des émissions de France Inter dont je suis un fidèle auditeur depuis 50 ans. Bref,
merci.
Deux observations sur le bio d'abord. Le vin et le fromage. Je suis pas persuadé que le bio apporte quoi que ce soit en la matière, si on considère le cahier des charges. J'ai la chance d'avoir dans ma cave des vins de maison qui parleront aux intervenants ce soir, de la maison de Rouen, de Jadot, de la Tour en Bourgogne, ou de quelques étiquettes de Bordeaux qui font des vins en agriculture raisonnée qui sont de très bonne qualité. De la même manière, je ne suis pas persuadé que pour les fromages ça ait un sens. Les cahiers des charges sont tels que on a des produits qui sont de qualité inouïe, quelles que soient les régions. Enfin, un témoignage. Ma femme et moi travaillons beaucoup. Nous cuisinons tous les jours et chaque semaine nous faisons notre marché chez un primeur, au marché. Nous faisons attention aux étiquettes, nous achetons des produits français, excusez-moi, ça peut paraître un peu réactionnaire, mais bref, il suffit de lire les étiquettes pour savoir ce qu'on mange en fonction des saisons, et nous cuisinons tous les jours pour nos 4 enfants qui mangent largement au-delà de 5 à 6 ou 12 fruits et légumes par jour, avec plaisir parce qu'ils le font avec nous et que c'est un grand moment de réconciliation, de bonheur et de plaisir à manger ce que nous avons cuisiné. Je terminerai simplement en paraphrasant, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Michel Serrault dans le film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs, lorsque Michel Serrault s'adresse à Gérard Depardieu et à Patrick Devers, bougez-vous le cul, putain, excusez-moi, c'est un peu grossier, mais ça n'est pas difficile, ça n'est pas coûteux, c'est bon pour les familles, c'est bon pour le lien, c'est bon pour la transmission, un thème que vous avez évoqué plus tôt. Ce sont de grands, grands moments de plaisir. Cuisiner, c'est un plaisir immense, c'est un partage quotidien et c'est une transmission fabuleuse.
Merci Antoine pour ce témoignage. Merci. J'ai envie de citer également Auguste Escoffier qui disait « Faire de la gastronomie, c'est allier plaisir, bien-être et santé ».
Oui, il avait puisé ça dans Archestrate, l'Antiquité grecque déjà, ensuite repris au XIIIe siècle par le traité de l'école de Salerne, et Escoffier l'a republié effectivement. C'est intéressant et c'est l'axe qu'il faut vraiment entretenir, c'est le plaisir, bien-être et santé.
Flora Micula.
Oui, et puis il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une cuisine, en échangeant dans la cuisine. Des couples se forment, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui se font. Et il faut que les familles recuisinent, il faut leur donner l'envie de le faire. Alors il y a eu ces émissions, il y a des films maintenant basés complètement sur la cuisine, et tant mieux.
Mais il faudrait quand même que la cuisine, qui est le cœur battant de la maison, soit vraiment active et que on ne se contente pas de regarder la cuisine à la télé comme souvent on regarde du sport, mais qu'on la fasse vraiment. Et voilà, ce monsieur a parfaitement raison. Je pense que avec un petit peu de travail le week-end et de travail agréable à plusieurs, on peut se préparer une semaine de très très bons repas où là on aura besoin de moins de temps parce qu'on s'est un peu mis en place. C'est ça, ménager, au sens où l'employé Zola dans
mange plus de la viande tous les jours et on s'en porte un peu plus mal. Et voilà, donc on peut faire quelque chose et faire participer les enfants et les faire goûter.
Cet auditeur évoquait aussi quelque chose, c'est le lien social de la cuisine, c'est extraordinaire, le lien familial que ça crée, un nombre de choses que se font et se défont des fois dans la cuisine et dans la société, c'est la même chose, c'est un lien social fort.
Et la transmission, c'est transcendantal aussi, parce que la recette de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère qui a été, qui est passée par deux générations et qui arrive à vous, c'est quand même formidable, même si c'est une recette, c'est jamais qu'une recette, mais c'est simplement le fait que ça ait traversé tous ces gens pour arriver jusqu'à vous. Il faut être reconnaissant un peu quand même.
Alors à travers les mails que nous recevons, Janie ou Agathe qui nous demandent où sont les bonnes options d'achat, on a le sentiment que beaucoup d'auditeurs ont envie de retrouver ce plaisir de cuisiner plus sainement, de façon plus naturelle, mais comment faire? Quelle source d'approvisionnement demande Hélène. Où sont les bonnes options d'achat? Demande Janie, par exemple. Comment fait-on?
Vous savez, il y a de plus en plus, on est bien mieux lotis aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. J'habite à Paris depuis quelques années, et près de chez moi, là, boulevard des Batignolles, il y a un jeune homme qui a ouvert une boutique qui s'appelle La Récolte. Et à La Récolte, ce gamin, il a absolument les produits de tous les producteurs qu'il connaît personnellement et qu'il fait venir parce qu'il sait que la performance donc tridimensionnelle dont je parlais tout à l'heure de ces produits est bonne. Il n'est pas le seul sur Paris. Vous avez rue du Nil, Terroir d'Avenir, qui fait ça très bien. Enfin, je ne veux pas citer tous, mais il y a de plus en plus maintenant quand même de gens. Et il ne faut pas aller dire que c'est réservé aux plus riches, même si effectivement le prix facial est plus cher, mais réaliser ce que ça veut dire un prix, le cochon pas cher qu'on achète dans les grandes surfaces, il nous coûte une fortune à tous. Vous le payez 4 fois. Vous le payez une fois à la caisse, une fois à la sécurité sociale pour soigner les gens qui la rendent du malade, une fois dans vos impôts pour nettoyer la merde, le lisier, les nappes phréatiques et les plages bretonnes transformées en hippodrome de la mort, et puis vous le payez une quatrième fois par la PAC, parce que on lui paye même pas le prix qu'il faut pour qu'il puisse bouffer avec aux producteurs de cochon. C'est pas hors de prix, ça.
Mais même dans les supermarchés, on n'y va pas très souvent parce qu'on est quand même sur Paris, mais ça m'arrive en été. Il y a du mieux, mais il faut savoir choisir. Alors c'est vrai que quand on arrive, moi, j'ai fait l'expérience avec mon fils l'année dernière. Ça faisait, je sais pas, il avait dû être 2 fois dans un supermarché de sa vie. Je lui dis, va chercher des yaourts. Il est revenu 5 minutes après. Il m'a dit, maman, mais je sais pas, il y en a trop.
Je me suis perdu dans le yaourt.
Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on est un peu déconnecté des fois de la réalité, nous, dans nos métiers. Mais c'est vrai qu'on offre trop de choix. Il y a un problème, quoi.
Surtout de refaire la cuisine, c'est ça qui est intéressant. C'est l'idée de, quand j'entends cette dame, c'est l'effet quand je vous lisais sa question, c'est de refaire la cuisine. Déjà, c'est vraiment important. C'est-à-dire, se priver de produits de cinquième catégorie qui sont trop riches en sucre, trop riches en sel, trop riches en matières grasses, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux faire, même si la salade n'est pas totalement bio ou si la carotte n'est pas totalement bio, de la recuisiner et d'ingérer quelque chose qu'on a préparé. Et c'est jamais une question de temps. Il faut savoir que
la cuisine, couche de valeur en plus.
C'est une couche de valeur en plus. Voilà.
Et arrêtons de considérer que manger sainement, c'est réservé aux bobos.
Non, il faut arrêter avec ça.
Non, je crois que ça se transmet. Nous, on nous a transmis de bien manger. Il faut continuer et puis il faut le propager le plus possible.
Et puis, il faut militer pour des ateliers cuisine très tôt, de vrais ateliers dans les écoles, dès l'école primaire, savoir comment on transforme, par qui ça a été produit, comment on le transforme et qu'est-ce qu'on ingère. Et dès lors qu'on va préparer très tôt ces futurs consommateurs, on aura déjà gagné aussi.
Aider dans les villes aussi, les petits commerçants qui désertent les villes, leur faire, comme on essaye en ce moment dans certaines villes, de leur faire des passerelles, de leur faire des aides pour réouvrir des commerces de proximité.
Un dernier appel dans ce téléphone sonne, c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir. Eh ben, écoutez, mon appel, je pense, tombe à pic. Moi, j'ai créé deux épiceries écolocales à Toulouse. Donc, c'est deux épiceries qui amènent du circuit court dans la proximité. Je crois que vos invités ont dit tout ce qu'il fallait à ce sujet-là. Juste un petit détail, je crois que vraiment ça ne coûte pas cher de manger local et de saison. Juste pour info, moi les pommes elles sont vendues à 1,80€. J'ai 9 variétés de pommes en ce moment, elles sont non traitées. Les salades sont à 1,30€, elles viennent d'un permaculteur à côté de Toulouse. Voilà, et les gens reviennent dans l'épicerie en disant les carottes sont bonnes, les carottes ont du goût, les pommes de terre ont du goût. Et ils viennent voter, et ceux qui votent, ce sont pas forcément ceux qu'on attend, je dirais, dans ce type de commerce. C'est pas des bobos, ça touche toutes les couches de la population, des jeunes aux moins jeunes, du cadre au chômeur, à l'étudiant. Et c'est simplement une question de volonté. Voilà.
Merci Isabelle pour votre témoignage. Ça n'a jamais été aussi populaire, hein, votre métier, on le voit bien, par la multiplication des émissions. Donc, il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. On était la dernière roue du carrosse pendant des années.
Dans les territoires, chez les héros que sont les producteurs des riches terres d'aujourd'hui. Voilà ce que je dis.
Et puis, un chef qui ne serait pas impliqué dans la gestion de l'impact de sa cuisine sur l'environnement cirait la branche sur laquelle il est assis. Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est vous, Thierry Marx.
Il a bien raison, Thierry Marx.
Donc, vous avez aussi un rôle à jouer, vous, les chefs.
Mais bien sûr, sur l'environnement, bien sûr.
Et puis, manger le foie gras ce week-end, mais pas toute l'année.
Voilà.
La saisonnalité.
Un dernier mot, je reviens vers vous, Arnaud Daguin. J'aime bien votre idée des 3 H. Vous avez dit quelque part qu'il fallait développer les 3 H dans
les
nos campagnes.
Les 3 hum.
Humain, humus, humilité.
Même racine étymologique. Humain, humus, humilité.
Merci à vous donc pour ce téléphone sonne, Thierry Marx, dont je rappelle les chroniques sur France Info le samedi et le dimanche, les écoles de cuisine pour les jeunes qui nous ont écoutés ce soir et à qui ça pourrait donner des idées, Flora Mikula, chef de l'auberge Flora, boulevard Lenoir à Paris, Arnaud Daguin, conseiller en alimentation et chroniqueur gastronomique, qu'on retrouve évidemment avec plaisir le dimanche matin sur France Inter chez François-Régis Gaudry. Merci à tous.
Merci à vous.
Bonne soirée.